Merci beaucoup, cher maître. Merci beaucoup. Je voudrais dire quel plaisir pour moi de partager ce jour. Je voudrais d'abord féliciter le professeur Sayoko d'avoir accepté de présider ce jury et de dire que c'est un maître pour moi, c'est un modèle pour nous tous. Pour ce Samekobo, c'était un des nos grands patrons à qu'on est arrivé, jeune médecin, comme un modèle. Et pour ce Samekobo m'a beaucoup aidé, m'a beaucoup encouragé. Et même quand il avait quand il était à Bandung, j'allais là-bas sur sa demande pour faire des présentations. Donc je vous remercie beaucoup. Également, quand le processus avait été comité d'éthique nationale, quand on avait des projets, des protocoles à présenter là-bas, on bénéficiait également beaucoup de ces conseils. Merci professeur pour tout ce que vous faites pour nous et pour tous les autres Camerounais. Je dois dire que je remercie le professeur de m'avoir associé à ce travail. Ce n'est pas la première fois qu'on partage un travail ensemble. Tout à l'heure, quand on discutait avec un attendant que vous arrivez, on était en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire, des collaborations avec le Centre de recherche de maladies émergentes et réémergentes où je suis responsable aujourd'hui, et de faire beaucoup des enseignements ici à l'université. Et moi, je dois dire que je prends très plaisir parce que ça fait peut-être le quatrième étudiant que j'ai ici. Il y a d'autres qui sont arrivés, qui sont en cours de formation. On espère que tout va aussi bien se passer. Merci beaucoup de nous inviter. Je voudrais également dire merci au professeur Julien Luis Oliken. Si c'est notre premier jury, je pense que ça s'est très bien passé. J'espère que les autres vont se passer comme ça. Et j'avais vu quand le docteur Ebouki me disait qu'il se rapprochait pour avoir des formations, des conseils. Moi, j'ai lu également beaucoup de papiers sur vous, et donc je vous connaissais aussi beaucoup sur le plan scientifique. Merci pour tout ce que vous avez fait. Et Françoise, je l'appelle ma soeur, elle m'appelle mon frère. Ça montre la proximité que nous avons de travailler ensemble à l'hôpital central. Et j'étais très content quand vous attendez un étudiant, que vous voyez parmi les membres du jury des gens que vous connaissez. Je vous dis que vraiment ce travail va être de très bonne qualité parce qu'ils vont apporter leur contribution. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait, cette lecture très approfondie. Je voudrais commencer par revenir sur certains points que je viens évoquer sur les 395. Parce que vous l'avez défini, vous avez un cas d'accord. Parce que vous attendiez qu'elle dise quelque chose de plus par rapport à ça. Il faut dire que les 395, c'était l'objectif du développement durable. On s'est dit, d'ici 2030, si on a des indicateurs, on peut mettre fin à la vision de vie. Mais que si 95% des personnes qui connaissent leur statut, 95% des personnes infectées connaissent leur statut, comment ça peut être? Qu'on allait aller maintenir avec une charge générale, pas indétectable, c'est supprimé. C'est une charge inférieure à 1000 communes. Donc, on n'aura plus. On sait que quand les gens sont sous traitement, ils transmettent. Donc, si on met tout le monde sous traitement, ils ne vont plus transmettre l'infection en VIH. Et on va arriver à la fin de l'infection en VIH. La fin, ça ne veut pas dire que les personnes vivant avec le VIH vont disparaître. Ils vont être sous traitement. Et comme ils sont sous traitement avec une charge virale supprimée, ils ne font pas d'infection opportuniste. Donc les études ont montré que quand la charge est inférieure à 1000, il y a très peu de chances de faire des infections opportunistes. Donc c'est des gens qui vont vivre autant qu'il est prévu pour eux de vivre et mourir carrément d'autres choses. Là, c'est l'objectif du développement durable en 2030. Donc, si on arrive à cette 3,95, on va atteindre cet objectif du développement durable. Donc c'était ce qu'on attendait. Maintenant, vous avez évoqué l'aspect scientifique de ce travail. Nous sommes tous d'accord que ça montre beaucoup de données scientifiques, des publications sont déjà là, le prof a dit qu'on fera un livre, mais il y a un aspect politique de ce travail. Vous savez, avec la baisse de financement à l'EPF, c'est la première cible qui est menacée. Si on prend l'exemple de l'hôpital central, avec le nouveau bailleurs qui arrivaient avec du pain, ils ont supprimé 50% de postes. Donc 75% de postes d'APS. Donc, sur les. Ils avaient en charge 37 APS. Ils en ont recruté 7. Ils en ont retenu 7. Ça montre que. Parce que quand un docteur est dans son travail qui sont insuffisants, ça copie. C'est-à-dire que son travail était fait avant, mais ça copie. Donc, professeur Gossak a posé la question, partez de quelle base vous dites que c'est insuffisant? Quand le Fonds mondial met en place les moyens pour recruter les APS, l'objectif c'était un APS devrait suivre 200 patients. Maximum 200 patients. Voilà la norme qui a été mise pour qu'un APS puisse encadrer 200 patients. Donc, quand cette norme n'est pas respectée, quelque part, on suppose que c'est insuffisant. Mais aujourd'hui, même il a remis la norme à 300 patients. Pour pouvoir diminuer le personnel, ils ont remis la norme à 300 patients. Et je pense que c'est quelque chose qui va être difficile. Et l'autre portée politique de ce travail, c'est qu'en discutant avec le secrétaire permanent du comité national contre le sida, qu'est-ce qu'on fait des APS? Bon, il y a un plaidoyer auprès du ministre de la Santé en disant parmi les 9000 personnels de santé que le chef d'État a promis qu'ils vont être recrutés, qu'on recrute aussi ces APS pour qu'ils aient maintenant un statut juridique qui. Parce que leur situation, comme elle a révélé, est tellement fluctuante que chaque année, ils doivent repostuler. Chaque année, ils doivent repostuler pour être maintenu. Donc, ils ont des contrats d'un an. Après un an, tu n'es pas sûr que tu dois être recruté. Et ça revient sur son travail sur la professionnalisation. On s'est rendu compte que nous étions passés à l'initiation complémentaire du traitement. On va vers les non-professionnels, non-médecins pour initier le traitement. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a certains personnels qui, sans avoir la qualification de départ, sans être professionnel, à force de faire, ont acquis une certaine professionnalisation. Vous allez avoir des personnes qui vous parlent tellement bien du DH que des médecins même, parce que à force de faire, ils sont professionnalisés par rapport à ça. Et c'est des personnes qui sont tellement utiles que vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'on ferait sans eux? Dès que le président américain a dit « je ne suis pas sûr de continuer le financement », on les a arrêtés, on a vu tous les indicateurs qui se perdaient. On avait tous les patients dépistés, on avait un très long de patients qui étaient maintenus sous traitement, et un nombre de patients qui faisaient les charges virales à l'hôpital. Ça montre que c'est un personnel qui est utile dans le sujet. Mais on n'a pas ce travail. Et comme ce travail également va être une base, si on décide de recruter un certain nombre, on se base sur quoi pour les prendre. On regarde, est-ce qu'ils sont professionnels? Est-ce qu'ils ont une qualification? Parce que la question que le professeur Bossa posait, que vous avez également évoquée, c'est comment ils recrutent pas sur les critères de l'État. Vous avez des infirmiers diplômés d'État qui sont recrutés. Vous avez en même temps des personnes qui ont fait juste une formation et qui ont le bac. Parce que l'histoire, c'est quoi? Quand on commence à recrutement des assistants psychosociaux, au départ, devait postuler dans les centres de traitement à créer des associations. Donc une association qui s'occupe, qui travaille sur le VIH, postule et est recrutée à l'hôpital central, par exemple. C'est ça pour l'hôpital central, il y a AFASO, Association des Frères et Sœurs Unis, qui est une association des personnes vivant avec le VIH et des personnes qui avaient une certaine sensibilité pour les personnes dans la vie. Vous ne regardez aucun diplôme. Dans l'intérieur, vous avez des personnes qui ont le BPC, des personnes qui n'ont aucune qualification. Et qui ont été recrutés comme assistants psychosociaux. Et c'est la formation continue. Et c'est à force de faire qu'ils se sont professionnalisés et qu'ils peuvent vous parler du VIH sans avoir lu dans un livre. Donc voilà, c'est pour ça. Et par contre, les autres étaient recrutés sur la base de façon personnelle. C'est-à-dire pour être APS dans un UPEC, on posait sa candidature seule et on étudiait votre dossier. Donc avec du temps, ils ont un peu amélioré pour être APS, il faut avoir une base de formation médicale. Et ceux qui étaient déjà sur le terrain sont maintenus. Donc, je voudrais vraiment vous remercier, dire que tout ce que vous avez dit, nous allons prendre en compte pour améliorer ce travail. Et je voudrais, si vous permettez, Monsieur le Président, de parler de la candidate. Bouki, c'est une personne avec qui on a travaillé pendant longtemps à l'hôpital de Jaune. En dehors de la formation ici à l'UQAM, elle a fait beaucoup de formations. Elle est diplômée de l'Université de Paris-Sorbonne. Elle a eu un DU sur VIH connecté, Paris-Sorbonne. Elle a fait la formation sur recherche clinique, depuis la recherche clinique, qui est faite avec notre formation AfraVIH. Elle a fait cette formation. Mais c'est un personnel que vous avez besoin d'avoir dans votre groupe. Vous avez besoin d'avoir dans votre groupe parce que elle sait ce que Mme Françoise a dit. Elle est posée. Elle est d'abord scientifique, mais elle est professionnelle. Vous n'aurez jamais aucun problème avec un patient fier au service. C'est-à-dire que quand vous appelez, vous êtes absent. Quand vous dites que le docteur Ebouki est là, vous êtes tranquille. Vous êtes sûr que tout va passer. Mais elle ne se plaint jamais. On ne sait pas comment elle fait. Elle ne se plaint jamais. Elle est là. Que ce soit la recherche clinique pour le projet de recherche, vous n'aurez jamais un data manager qui va dire que les CRF qui viennent du docteur Ebouki. Il y a des fautes, il y a des problèmes. Mais vraiment, elle s'est engagée sur ce travail, j'étais confiant. Et quelque part, je me dis, voilà une personne que je vais perdre. Voilà un médecin que je vais perdre. Mais on est là pour que les gens. Et je suis très content qu'elle grandit et qu'elle fait la fierté de l'hôpital de jour, parce que beaucoup de gens veulent suivre son exemple. Et pas là déjà arraché entre nos mains. Donc elle travaille avec l'ONG américaine maintenant. Mais c'est toujours pour le temps du Cameroun et nous aimerons la voir grandir encore plus. Avec un PhD comme ça, avec un document, avec ce travail scientifique qu'elle vient de faire, je pense qu'elle est en train d'apporter aussi sa pierre à l'édifice sur la lutte contre le VIH au Cameroun. Et je vous remercie, et je te remercie de tout ce que tu fais, tout ce que tu as fait à l'hôpital du jour. J'espère qu'on a encore beaucoup de choses à faire ensemble. Si tu t'engages dans la recherche, tu es la bienvenue. On peut faire beaucoup de projets en charge, ensemble. Il faut dire que c'est le PhD. On n'a pas un PhD pour dormir. Quand on a un PhD, ça veut dire qu'on a une ouverture dans le monde. On a une façon de voir les choses de façon philosophique, comme tu l'as fait dans professionnalisation, professionnalisme. Ça, c'est une notion de PhD. Et je suis très content d'avoir participé à ce jury. Je suis très content de l'aboutissement de ce travail. Et merci encore, professeur de Mama Association.